16h.
RTS Info, Christine Mattei.
L'Ukraine a fait face à une nouvelle attaque massive de missiles russes contre ses infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, des attaques qui ont endommagé 4 centrales thermiques et provoqué des coupures de courant. Kiev a de son côté ciblé 2 raffineries en Russie avec des drones. La Russie qui a mené ces dernières semaines plusieurs vagues d'attaques contre les centrales et le réseau électrique ukrainien, ce qui a obligé les autorités à mettre en place des restrictions à la consommation et à importer du courant de l'Ukraine. L'Union européenne, Kiev réclame depuis plusieurs semaines aux Occidentaux des batteries patriotes pour se protéger de ces frappes. L'Italie a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur russe après que Moscou a annoncé passer la filiale d'Ariston sous le contrôle du géant public russe de l'énergie Gazprom. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Moscou s'est emparé des filiales russes de plusieurs entreprises occidentales, notamment de Danone ou du fabricant de bière danois Carlsberg, les passant sous contrôle temporaire selon la terminologie de Moscou. La filiale de l'allemand Bosch serait également dans la mire d'une privatisation russe. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken figure parmi les dirigeants attendus au sommet économique qui s'ouvrira demain en Arabie Saoudite et mettra notamment l'accent sur la guerre à Gaza. Le WEF, qui aura lieu jusqu'à lundi, accueillera aussi le président palestinien Mahmoud Abbas et plusieurs dirigeants du Moyen-Orient et d'Europe. Ignacio Cassis, conseiller fédéral en charge des affaires étrangères, participera également demain et lundi à cette réunion spéciale du Forum économique mondial en Arabie Saoudite. La journée et la nuit des musées neuchâtelois aura lieu cette année les 18 et 19 mai. 22 institutions ouvriront leurs portes gratuitement. Elles proposeront au public de découvrir ou de redécouvrir leurs richesses au travers d'événements mis sur pied pour l'occasion. 140 animations sont prévues durant le week-end des 18 et 19 mai. Et on regarde vers les sommets du cyclisme en altitude ce samedi pour l'avant-dernière étape du Tour de Romandie qui est sur le point de se terminer. Les premiers coureurs sont à l'aise. Et vous aussi, Jérôme Jeannin. Alors, où est-ce qu'on en est, Jérôme ?
Il reste 500 mètres avant l'arrivée et ce sera l'équatorien Richard Carapaz qui va s'imposer, le champion olympique. Il possède une dizaine de secondes d'avance sur 2 poursuivants, l'Espagnol Carlos Rodriguez et le surprenant Allemand Florian Lipovitz. Le maillot jaune, Juan Ayuso, a craqué. Lui, il pointe à plus de 40 secondes de la tête de course actuellement. En l'état, ce serait donc l'Espagnol Carlos Rodriguez qui est en passe de son pari du maillot jaune et qui se profile comme le vainqueur de ce Tour de Romandie. Mauvaise journée pour les Suisses puisque Yannis Boisard a lâché à 6 km de l'arrivée. Le Jurassien était 9e du général et il sera éjecté du top 10. Alors que je vous confirme à l'instant la victoire d'étape magnifique du champion olympique Richard Carapaz.
Merci Jérôme, une victoire en direct de Lézin. Un mot de météo pour terminer. Les passages nuageux augmentent en cette fin d'après-midi. Le feu se renforce dans les vallées alpines. Il pourra donner des rafales de veaux d'air sur le Haut-Léman.
Couleur 3.
Aujourd'hui, je veux la volonté, la camaraderie et devin de la lucidité. C'est clair?
Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est l'heure de la troisième mi-temps.
15h-17h le samedi.
Et ouais, c'est un magnifique spectacle là, auquel on est en train d'assister.
Le rendez-vous sport de Couleur 3.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais on peut.
C'est la troisième mi-temps.
Tout, nous savons tout sur le water polo désormais. Voilà, donc c'est pas... T'as kiffé les refs de vieux un peu. Tu sais, la moyenne d'âge des auditoristes de Couleur 3 est plus âgée que nous. Donc,
ils ont 15 ans.
Quoi ?
Nous, on a 14.
Ouais, c'est vrai.
Moi, j'ai 14 ans.
Tu es peut-être allé trop haut dans la ref.
Goat, prime banger.
Toi, t'as les mots de Twitcher. Hein. T'as rien à faire là. Tu dois aller sur Twitch maintenant.
Moi, j'ai envie d'avoir des sièges baquets pendant que je fais mes émissions. Comme les pilotes de F1.
Oui, c'est ça.
Qu'il y ait des néons autour de moi.
Et re-bienvenue. Je suis avec Yacine Nemra. Vous êtes dans la troisième mi-temps, l'émission sport de Couleur 3. On a un très beau programme qui nous attend pour la deuxième heure avec notamment Sarah Rempe qui arrive dans quelques minutes et qui nous racontera le cinquième et dernier épisode de sa causerie sur les grands drames qui ont émaillé l'histoire du sport. On parlera ensuite avec notre consoeur Isabelle Fiot qui est journaliste sur la première. au même étage que nous, mais un petit peu plus loin, et qui vient de consacrer toute cette semaine une série de reportages pour l'émission Vacarme sur les supporters ultra. Vous avez sans doute entendu parler de ça dans les journaux ces derniers temps, mais on en parle beaucoup, des mesures sont annoncées, certains sont d'accord, les clubs sont pas d'accord avec les cantons, on parle même pas de la vie des ultras eux-mêmes, enfin voilà, ça part dans tous les sens, on essaye d'y voir plus clair avec Isabelle dans quelques minutes. Ensuite, Yacine, on aura ton merveilleux Le Saviez-Vous.
C'est juste cette semaine, c'est alignement de banger sur banger.
Waouh. Moi, j'ai pas compris, mais si j'avais 15 ans, j'aurais compris ce que
c'est. C'est génial, c'est du talent pur.
Incroyable, Le Saviez-Vous. Et ensuite, évidemment, on va checker un petit peu l'ensemble de l'actu sport de la semaine et puis des jours qui précèdent. Comme d'habitude, entre cette fois-ci deux pages espagnoles, marathon et dégustation de vin, ou bien basket et chicken wings. Vous verrez que ça va ensemble, aussi improbable que ça puisse paraître. Voilà, nous avons toujours Gabriel Schwen à la programmation musicale, Valère Veilla en réal.
Yo!
tout simplement yo. Lui aussi, il fait le faux jeune. Et puis voilà, on est parti. Merci d'être avec nous. C'est trop beau. Vive le sport sur la 3.
Troisième mi-temps sur Couleur 3.
I O I. Une chanson de Pyjama. Elle est superbe. Let's go.
il est bien pu.
Vous avez toujours rêvé de prendre l'ascenseur avec Blaise Berzinger.
Salut tout le monde, c'est Blaise Berzinger.
Vous voulez comprendre ce qui se passe dans la tête de Franck Mater en regardant comment il organise son bureau ?
Couleur 3, radio pour les jeunes.
Vous ne savez pas quelle taille fait Valérie Paco parce que ça ne se voit pas à la radio ?
Hello les jeunes !
Ça tombe bien, on vous accueille ici dans nos studios le jeudi 2 mai de 18h à 21h.
Bienvenue au royaume des cons.
Découvrez les coulisses de Couleur 3 en assistant à l'une de nos émissions en direct et prenez l'apéro avec ceux et celles qui font la chaîne, de la programmation musicale aux réalisatrices et réalisateurs, DJ résident et même Fantin Moreno qui sera votre gentil organisateur et qui vous montrera tous nos locaux, ou presque. Parce que le bureau de Franck Mater est un foutoir pas possible qu'on ne peut pas dévoiler au public. Pour vous inscrire, c'est tout simple, rendez-vous sur avecvous.rts.ch.
Dommage qu'on puisse pas toucher.
Couleur 3, couleur 3.
Merci Marie. Effectivement, il y a encore des places pour cette soirée de jeudi prochain, le 2 mai. Et je serai effectivement là avec DJ Joe, avec Ottavio, qui vont mixer une heure chacun. Parce que oui, vous venez à 18h, on discute d'absolument tout ce que vous voulez de Couleur 3. On fait le tour comme vous voulez, des régies, des studios, et blablabli, et blablabla. Et ensuite, nous, on est en direct de 19h à 21h. Et vous, vous êtes dans les studios avec nous à danser. Et on vous offre snacks et boissons. Et on se met bien pendant 2 heures. C'est pas beau la vie ? Allez, à jeudi. Et pour l'instant, voici un repère à signer. Kesha Vara. Sarira kaso yenam Yaba Suni suni chantra kulam Bibi Yaba Samedi majara hai Yaba Manaki apna chance bale Bibi Yaba Surila chandrama Chandrama Surila Sa Mananki Yatra Chansafari Kesha Vara. tableau vivant. C'était un repérage il y a quelques semaines. Je me suis enflammé. Maintenant, c'est plus un repérage, c'est un officiel. Ça, c'est comme les remplaçants qui arrivent gentiment dans l'équipe, puis au bout d'un moment, ils sont titulaires. Ben, Keshavara a gagné sa place de titulaire dans l'équipe Couleur 3 dans la programmation. Ça me fait très plaisir. Excuse-moi, Valère. Oh oui, il me rappelle de quoi va parler la chronique qui arrive de Sarah Rempe, puisque c'est l'heure de la causerie. Bon, tu te rappelles, on est sur une série sur les grands drames du sport. Oh. Et les grands drames, c'est pas les défaites de l'Algérie et du Lausanne, ok?
Non, mais de la Suisse.
Oui, de la Suisse, voilà. On est sur des vrais drames où il y a eu des leçons qui ont dû être tirées.
Genre,
avec
y a eu
la
morts,
sécurité qui a, voilà, avec la sécurité qui a changé, avec le monde du sport qui s'est adapté. C'est des moments historiques importants, tu vois. Et elle nous en parle de quelques-uns. Et aujourd'hui, elle nous parle, elle fait un petit peu un hors-série pour terminer la série avec un type, voilà, un individu. On est plus sur un individu qu'un sport où tout est parti en vrille. Là, on est vraiment sur Michael Watson. Vous allez voir, c'est un combattant qui s'est relevé et qui a beaucoup aidé les gens en difficulté au niveau santé pour s'adapter au sport et revenir malgré leurs difficultés. C'est assez exceptionnel, trop l'histoire beau de ce mec. Sarah Rempe, qu'on retrouvera bientôt, même si c'est son dernier épisode aujourd'hui. Elle revient en juin avec une nouvelle série. Donc, on se réjouit de la retrouver. Et pour l'instant, on écoute l'épisode 5 de cette causerie. À tout de suite. Sarah, c'est à toi.
La causerie.
Caméra embarquée dans la Benetton de Michael Schumacher, juste devant lui, Ayrton Senna.
Les grands drames du sport.
Le choc frontal ne lui laisse aucune chance. La voiture est pulvérisée.
Sarah Rempe.
Notre protagoniste du jour s'appelle Michael Watson. On dirait un pseudo, mais c'est son vrai nom, promis juré. Et c'est pas le Michael Watson qui jouait dans Amour, Gloire et Beauté. Ma foi, on choisit pas ses homonymes. Donc, Michael Watson, le nôtre, naît en Angleterre le 15 mars 1965. Et comme vous le savez tous, notre vie est écrite en fonction de la chanson qui était numéro 1 en hit parade le jour de notre naissance. Et pour Mike, c'était ça. Tom Jones, c'est sa chanson qui signifie « Ce n'est pas inhabituel ». Gardez ça en tête, vous allez comprendre pourquoi ça conviendra parfaitement à notre Michael. On a malheureusement assez peu de détails sur son enfance, ce qui n'est pas très grave, hein, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est sa carrière de boxeur. Il commence à 14 ans et il se trouve qu'il est assez doué et qu'il apprend vite. Il devient champion d'Angleterre des moins de 75 kilos à 19 ans et dans la foulée, il commence logiquement une carrière professionnelle. On le voit déjà comme un favori au JO de 84, sauf qu'il se fait passer devant par Brian Schumacher, le comble. En 1989, après avoir remporté le titre des poids moyens du Commonwealth britannique, Michael Watson défie Mike McCallum pour le titre mondial, où il se prend un KO au 11e tour. Mais c'est que partie remise. Deux ans plus tard, Watson a une nouvelle chance contre Chris qui est déclaré vainqueur. On est donc à deux finales mondiales de boxe et deux défaites pour notre Watson, qui compte pas pour autant baisser les bras. En septembre 1991, donc trois mois après leur premier combat, Eubank et Watson s'affrontent de nouveau, cette fois pour le titre WBO des super moyens. Moi non plus, j'ai pas tout capté aux différentes catégories, mais peu importe dans notre récit. Le combat est féroce et on sent que Watson veut sa revanche. Il est d'ailleurs en avance et on l'imagine déjà gagné quand il envoie Eubank au tapis au 11e round. On se dit que ça y est, Watson va enfin devenir champion du monde. Sauf que... Eubank se relève juste à temps et balance un uppercut qui envoie Watson en arrière. Il tombe dans les cordes et se fait un coup du lapin. Il se remet debout, va dans son coin, puis repart pour un ultime round qui durera que quelques secondes. L'arbitre stoppe le combat et Eubank célèbre sa victoire en ignorant ce qui se passe à côté de lui. Watson s'est effondré. À ce moment-là, il n'y a ni ambulance, ni ambulancier sur place. C'est des médecins présents dans la salle qui se déplacent. Mais ça fait déjà 8 minutes que Watson ne respire plus. Il recevra des soins seulement 28 minutes après à l'hôpital. La suite, c'est 40 jours dans le coma et 6 opérations pour enlever un caillot de sang dans son cerveau. Mais Watson n'est pas un simple boxeur, c'est un vrai battant. À son réveil, il est sourd, muet, il peut pas marcher et va passer une année aux soins intensifs. À ce moment-là, les médecins sont pas franchement optimistes. Et entre nous, je sais même pas comment lui a pu le rester. Il passe encore 6 ans dans un fauteuil roulant et puis le miracle. Petit à petit, il retrouve du mouvement, il recommence à parler, à lire et à écrire. Si vous croyez pas en Dieu, croyez en Michael Watson. Alors forcément, ce genre d'événement très très dur, ça a au moins l'avantage de faire évoluer les choses. Et autant vous dire que ça n'a pas traîné dans la boxe. D'autant plus que Watson a attaqué en justice le conseil de contrôle de la boxe britannique pour négligence. Je rappelle qu'il est resté 8 minutes sans oxygène. Donc je vous laisse imaginer les dégâts irréversibles que ça fait. Il est d'ailleurs toujours hémiplégique. Michael gagne son procès et dans le jugement, la cour rappelle au conseil de contrôle le devoir de diligence qui n'est pas seulement d'éviter les blessures, mais aussi de s'assurer que les blessures déjà subies soient correctement traitées. À partir de là, la boxe va prendre plein de nouvelles dispositions, notamment au niveau médical, pour éviter de revivre le drame Watson. Que ce soit la présence médicale, la formation des arbitres, la limitation de la durée des rounds, il y a eu une prise de conscience. Quant à Watson, il n'est pas resté sagement dans sa chaise roulante. En 2003, il a fait le marathon de Londres, en marchant 2 heures chaque matin et chaque après-midi pendant 6 jours, le tout en récoltant des fonds pour l'aide au handicap. Balèze pour un mec qui devait plus remarcher, hein. Je vous dis, je vais imprimer une photo de lui et la mettre au-dessus de mon lit. Et détail marquant, lors de ce marathon, Watson a franchi la ligne avec son neurochirurgien, Peter Hamlin, et avec Chris Eubanks, son adversaire lors du combat fatidique, qui a forcément galéré psychologiquement à se remettre de ce qu'il avait fait malencontreusement. Mais Michael lui a pardonné en lui disant, entre autres, « Passons à autre chose, ça aurait pu arriver à n'importe qui, c'était un accident, que Dieu te bénisse. » Je me répète, mais Michael Watson est un saint. Il a d'ailleurs reçu l'ordre de l'Empire britannique des mains de la reine d'Angleterre en 2004. Et comme un symbole, il a porté la flamme du relais paralympique en 2012. Une sacrée leçon de courage et une énième démonstration de la force de persévérance qu'on peut trouver à travers le sport. Et puis une piqûre de rappel, quels que soient les drames, c'est l'espoir qui meurt en dernier.
La causerie sur Couleur 3.
I ain't
Funky Kingston, c'était Toots and the Maytals dans la troisième mi-temps, l'heure de parler des ultras. Et vous avez entendu à la manière dont j'ai dit le mot ultra, c'est un sujet qui est pas mal épineux en ce moment, mais qui est important à dédiaboliser aussi, et puis à essayer de mieux comprendre, voilà. Et il se trouve que sur la première, nos collègues juste au même étage, un peu plus loin, eh ben on est parti sur un reportage de terrain assez superbe à suivre, que je vous recommande. Il est en ligne sur le Play RTS, c'est passé toute cette semaine, il y a eu 4 épisodes à la suite. Vacarme, supporter, une passion débordante, c'est un reportage d'Isabelle Fiot dont je vous propose un petit extrait déjà, comme ça on voit un petit peu de quoi on parle.
Je trouve qu'on en fait un peu trop par rapport à ce qui se passe réellement. Des fois il y a des débordements, mais c'est pas dans l'extrême. Ça reste quand même bon enfant.
Je pense qu'il y en a certains qui sont des vrais, qui sont des vrais supporters. Malheureusement, il y en a certains qui sont des vrais abrutis. Des gens qui sont là uniquement pour chercher une confrontation, que ce soit avec la police, soit avec les supporters adverses.
À votre avis, est-ce qu'on est trop laxiste?
Oui, on devrait être beaucoup plus sévère, beaucoup plus sévère. Qu'ils aient fait un petit séjour en prison, ça leur ferait du bien.
Mais l'ambiance, ça amène aussi les gens au stade, ça fait venir aussi les jeunes au stade, parce qu'ils sont aussi impressionnés par l'ambiance qui est générée par cette atmosphère.
Ça pète derrière nous.
Ouais, c'est normal.
C'est une ambiance qui est importante quand même. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais nous, on doit... Je trouve que ça manque s'il n'y a personne.
Voilà, il y a de l'ambiance. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, évidemment, qui sont sur la place, qui se demandent ce qui se passe. C'est un peu le spectacle, hein.
What are you doing?
Well, I'm making a radio report.
Huh? Don't make this.
Really? I warned. No. Luca Maggi.
I think it's better if you don't do that.
I should stop.
Yes, please. Okay.
Okay, sure.
Voilà. Ne faites pas ça, quoi. Elle a dû arrêter son reportage à certains moments. Isabelle Fiot, la journaliste que vous venez d'entendre, qui a donc fait ce reportage vacarme en 4 épisodes sur la première. Isabelle Fiot est passée dans nos studios pour raconter un petit peu les coulisses de ces reportages. Coucou Isabelle.
Mais bonjour.
Mais bienvenue, bienvenue.
Mais merci.
Écoute, la première question que j'avais, c'est... Je me dis, mais là, elle est se fourrer dans un merdier. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet des supporters, alors?
Bon, alors il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que j'adore le foot et que depuis que je suis toute petite, je regarde le foot et je suis allée à des finales de coupe à Berne quand j'étais ado. Enfin voilà, c'est un truc que j'aime bien. Et il se trouve que j'ai un peu arrêté et maintenant j'ai des enfants et je suis retournée au foot avec mes enfants. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais aussi, tout d'un coup, on a une autre perception des choses. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre les ultras. Au contraire, j'apprécie leur présence et tout. Et puis, mais je reconnais que je me suis retrouvée dans quelques situations, justement, à Lausanne, avec l'arrivée des ultras, avec mon fils de 9 ans. Et quelquefois, je me suis dit, mais en fait, c'est pas très agréable. Et puis, c'est vrai que ça m'a... Et comme ça pose beaucoup de questions de sécurité, que ça coûte cher, je me suis dit que c'était une bonne série à faire pour Vacarme, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce mouvement ultra, et puis après, tout ce qui va autour, ce que ça coûte, entre guillemets, à la société, enfin, j'ai essayé de creuser un peu cet aspect-là.
Et puis en fait, il y a ton sentiment personnel, mais il y a aussi de l'actu, en fait, qui est à fond là-dedans.
Il y a de l'actu, voilà. En fait, c'est vrai que comme il y a bientôt l'Euro, je m'étais dit, ah, j'aimerais bien faire une série sur le foot pour Vacarme, et je pensais plutôt au foot qui rend fou, l'argent, enfin voilà, le foot rend fou à cause des émotions qu'il procure. Et en décembre, le 9 décembre, il y a eu ce fameux match à Lausanne, Lausanne-Servette, qui effectivement a dégénéré. Et là, je me suis dit, ah ouais. Et donc, dans les 2 jours qui suivent, le canton de Vaud et le canton de Genève, qui annonce que le prochain match Servette-LS sera à huis clos, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai voulu faire ça et ça tombait bien. Il y avait beaucoup d'actu au mois de mars-avril.
Déjà, est-ce qu'on peut réexpliquer en 2 mots, et tu le fais d'ailleurs au début de ta série, la distinction entre ultra et hooligan? Parce que le grand public a tout de suite tendance à associer les ultras à la violence, alors que c'est pas le cas.
C'était aussi le but de cette série. Effectivement, les ultras, c'est vraiment les supporters les plus fervents, pas qu'au foot, évidemment, au hockey, n'est-ce pas, Yacine? Qui suivent leur équipe partout, c'est important. Ils sont non seulement présents dans le stade à domicile avec des chants, des tambours, enfin tout ça, des fumigènes, mais ils suivent leur équipe, ça leur leur coûte de l'argent, ça leur coûte du temps. Enfin, c'est vraiment des gens fervents et des gens qui restent. Quelqu'un m'a dit une fois, nous, les supporters, on reste en fait. Les joueurs, ils passent, les dirigeants, ils passent, mais nous, on reste. Donc ça, c'est les ultras qui sont souvent, effectivement, qui ont une tribune particulière, ils sont souvent debout et c'est les plus fervents. Et les hooligans, de ce qu'on m'en a dit, c'est en fait, ils n'ont rien à faire du foot. Les hooligans, ce sont des gens qui veulent en découdre, qui parfois même dans certains pays se retrouvent peut-être au milieu de la forêt pour se taper dessus.
Non, mais même chez nous. Hein.
Même chez nous, exactement. Et donc les hooligans, c'est plutôt des gens qui vont se greffer et qui vont chercher la confrontation et qui s'en fichent en fait du match et du résultat.
Même, je crois que c'est un terme assez flou en fait. C'est un peu une déviance liée au supporterisme. Enfin, c'est-à-dire que potentiellement, t'es un hooligan même si t'es un grand papa qui va casser la gueule à un fan genevois ou fribourgeois ou j'en sais rien. C'est en fait un hooligan, c'est une personne qui accomplit des comportements violents dans le cadre de manifestations sportives. C'est pas forcément lié au mouvement ultra.
Voilà. Qui vient pour casser, ouais.
On essaye de comprendre un petit peu ça. On a bien la différence maintenant avec les ultras, mais j'ai tilté avec ta sensation en fait que t'as eu avec ton gamin où tu t'es dit ah c'est pas très agréable. Qu'est-ce qui était pas agréable?
Bon, j'aimerais juste d'abord dire que la première, enfin dans une ancienne vie j'étais JRI, donc journaliste reporter d'image. Je travaillais au sport en ville de Lausanne pour la télévision locale et la seule fois où j'ai été dans une situation où on m'a fait un signe de couteau sous la gorge, c'était lors d'un match de coupe Lausanne Sport Ball à la Pontaise et je faisais un sujet sur la sécurité pour donc la télévision locale et au moment où le bus des Ballois est arrivé, littéralement les policiers m'ont chopé et m'ont mis derrière les barrières à côté d'eux et parce que j'étais en train de filmer, j'étais pas très attentive, ouais. Je pense, et effectivement il y a vraiment des gens qui m'ont regardé avec ma caméra et qui m'ont fait un signe, voilà, couteau sous la gorge. Donc déjà je pense que ça s'est resté dans une part de ma tête, on peut dire. Et puis ensuite la question désagréable, oui, en fait quand je suis allée avec mon fils, déjà le premier match où je suis allée avec mes enfants à Lausanne contre la Tuile, le stade de la Tuilière a ouvert, c'était contre Bâle et il se trouve qu'à l'époque le secteur famille était à côté du secteur visiteur et je vous mens pas, dans la première minute, c'était, je me rappelle plus, c'était il y a deux ans et demi, la première minute du match, le premier match à la Tuilière avec mes enfants, les Ballois ont sorti mais vraiment des dizaines de fumigènes et toute la tribune famille où il y avait énormément de monde, on a été vraiment enfumé, intoxiqué. Et déjà, ça m'avait beaucoup frappé.
Ouais, c'est dur.
Et l'autre chose, honnêtement, pour être rapide, c'est que mon fils, il est complètement fasciné par les ultras et je trouve que c'est très intéressant de l'observer. On a énormément de discussions à la maison et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai voulu faire cette série. Parce que d'un côté, il est fasciné par l'ambiance que ça met dans le stade et pour de bonnes raisons. Et j'ai remarqué qu'il est aussi fasciné par le fait que les ultras transgressent quand même les lois. Parce qu'il me dit, du haut de ses 9 ans, il me dit, mais maman, pourquoi ils ont avec des fumigènes, c'est interdit. Mais maman, pourquoi ils disent des insultes aux fans adverses alors que nous, à l'école, on n'a pas le droit et puis toi, au travail, t'as pas le droit. En fait, il m'a posé beaucoup de questions à laquelle j'avais pas forcément, réponse. Donc, j'ai remarqué que mon fils, il est fasciné par ce côté transgressif également des ultras.
Intéressant. Isabelle Fiot qui est avec nous, qui a réalisé Supporter, une passion débordante. Reportage de Vacarme qui est passé toute cette semaine sur la première. Un dernier mot sur les familles, parce qu'il y a aujourd'hui certains politiques qui parlent de terreur des ultras, qui disent qu'on n'ose plus justement aller en famille au stade, alors que la réalité et les chiffres disent l'inverse. Il y a énormément de familles au stade, il y a de plus en plus de spectateuristes au stade, donc vraiment ça augmente. Donc en fait, quelle est la vérité là-dedans, tu vois? Où est le juste milieu?
C'est une bonne question. C'est effectivement un argument politique qui est très utilisé. Je pense pour ma part qu'il y a une part d'exagération parce que, bon, de nouveau, moi je connais pas tous les stades de Suisse romande, mais je pense également par exemple à Lausanne, il y a effectivement un gros effort qui est fait. Il y a énormément de familles qui viennent, il y a beaucoup d'actions, des prix gratuits pour les enfants ou 5 francs. Il y a effectivement beaucoup de familles qui viennent et moi, il y a eu ces situations où je me suis dit, oui, les ultras qui arrivent, qui sont peut-être 500 000, puis qui se montrent un peu menaçants, c'est pas très agréable, mais jamais je me suis sentie pas en sécurité. Bon, après, il y a eu ces événements au mois de décembre, je n'y étais pas, je peux pas juger. Donc je pense qu'il y a une part d'exagération. En même temps, je ne suis pas policière et quand je parle dans la série au commandant de la police valaisanne, il me donne des exemples précis où il pense sincèrement qu'il pourrait un jour y avoir un mort. Donc c'est difficile de juger dans ma place, mais je pense pas que dans la majorité des cas, pour être allée aussi à Servette, que les gens, les familles n'osent plus venir car elles se sentent pas en sécurité.
Mais quand il dit ça dans ton reportage, le commandant de police, j'ai envie de lui dire, mais en fait, il peut y avoir un mort là en traversant la route devant la radio. En fait, ce risque existe partout. C'est pas pour autant que tu fous tout le monde en taule préventivement.
Tous les jours.
Voilà. Mais... Et puis, enfin, faut quand même vivre un peu, quoi.
Oui, moi, il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est que je pense quand même que les deux trucs qui impactent le plus les gens dans leur vision des ultras, au-delà des bagarres entre ultras et puis des bastons de hooligans, c'est plutôt genre les manifestations en ville, enfin les traversées. Genre à Lausanne, c'est vraiment, ils traversent la ville entièrement de la gare.
Ça, faut régler
au stade.
Le truc du cortège.
Ça, c'est quand même assez flippant. Je me suis retrouvé à des terrasses avec des copines, comme un coup, ils commencent à filmer. C'était impressionnant qu'ils se faisaient hurler dessus en suisse allemand par des fans de Winterthur qui faisaient keine Kamera, c'était vraiment genre non, mais c'était vraiment spectaculaire. Et justement, bah, l'effet de violence comme ça. Et du coup, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait pas comme au hockey sur glace, où en fait les fans doivent venir en car affrétés par les clubs, et donc ils arrivent directement à la patinoire. Et en fait, j'ai l'impression que avec le LHC, j'entends jamais des problèmes de LHC ou Gauthieron, des problèmes de il y a des fans de Ambry qui ont cassé des vitrines en ville, etc. Enfin,
Isabelle.
Ouais. Alors, de ce qu'on m'a dit, c'est vrai que pour le hockey sur glace, il y a quand même moins de supporters adverses qui viennent. Ouais. C'est vrai que là, il y a parfois 1500 Zurichois, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Au hockey, c'est plutôt, je sais pas, hier, je crois qu'ils étaient 600-700 Lausannois à Zurich.
Oui,
mais enfin, on m'a dit
ils ont restreint beaucoup les secteurs
voilà,
visiteurs.
On m'a dit que c'était quand même moins. Il semblerait que la tuyère a été faite pour ça, hein, pour que les supporters viennent en car. Sauf qu'il y a eu beaucoup de cas, je crois en 2021, où des cars ont été saccagés par des supporters. Ah, oui, donc les entreprises privées ont décidé de ne plus accepter ce sont des entreprises privées, elles ont le droit de refuser. Mmh. Alors que les CFF n'ont pas le droit d'interdire à quiconque de se enfin, en Suisse, on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de se déplacer en train. C'est une liberté fondamentale.
Ouais, on peut pas dire la course d'école, oui, mais les ultras, non, quoi.
Voilà.
C'est genre, si tu veux prendre le train, t'as
et
le
donc,
droit.
Et c'est vrai que chaque ville est différente. À Genève, les trains spéciaux vont directement au stade. C'est pour la police, c'est le parfait.
Rêve.
C'est le rêve. C'est le scénario idéal. Ouais. Et là, à Lausanne, effectivement, on a un scénario un peu catastrophique parce que là il faut vraiment le dire hein. Moi je veux dire, tu es aussi fan de foot que moi sans doute Fantin, mais il y a quelque chose qui joue pas avec ces cortèges enfin moi je l'ai vécu, je n'étais pas étonnée hein. Je me suis fait virer hein. On m'a dit dégage alors que je suis sur l'espace public, je fais mon travail de journaliste.
T'as absolument le droit d'être
et
là.
Et surtout, effectivement...
Et t'avais pas de caméra.
Et j'avais pas de caméra, je filmais pas du tout. C'était juste un micro, un enregistreur. Et effectivement, comme tu l'as dit Yacine, quand des gens filment, ils deviennent fous parce que s'ils font les bobets et qu'ils sont filmés, ça peut être utilisé contre eux. Mais enfin, quand même, quoi. Enfin, je veux dire... Donc là, c'est sûr que la question des déplacements, il y a une question qui est fondamentale et puis qui va être gérée par les politiques.
En fait, ça c'est mon avis perso, mais en fait personne n'est irréprochable et je trouve qu'il y a un peu des deux côtés, tout le monde, personne ne veut rien changer, en fait ça ne marche pas. J'ai plein de potes ultra, ils ont raison sur plein de trucs, faut arrêter de diabolisiser les ultras et tout, mais genre les trains, le gars, le train, vous le défoncez,
c'est
pas les mecs,
hein.
Vous le défoncez pas, je suis désolé, enfin il n'y a pas d'excuse de on est beaucoup, on est bourré, c'est comme en festival quand tu rentres de Paléo. Non, le train il est pas retourné à ce point là quand je rentre de Paléo, les gars. Donc juste, même si vous êtes bourré, on s'en fout, moi aussi je suis bourré avec vous, on prend nos bouteilles puis fin de l'histoire, on renverse pas de la binge par terre, enfin ça c'est vraiment la base. Donc ça, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Et je pense que vraiment, ça peut améliorer leur image et on va moins leur faire yesh. C'est juste, ils rangent leurs déchets parce que la Suisse est sensible à être bien séant.
Et c'est pas que des déchets, enfin, c'est vraiment, il y a des trains qui sont saccagés.
Oui,
ça,
oui, il y a des sièges qui sont retournés, des vissés et tout. Mais ça, ils ont un peu arrêté. Maintenant, justement, ils sont assez fiers de dire ouais, on a été gentils, c'est juste dès qu'on n'a pas retourné les sièges. Mais en fait, les gars, le trick minimum, c'est pas ça.
Non.
Le trick minimum, c'est juste, tu sors ton train,
c'est
normal.
C'est ensemble,
en fait.
Voilà. Vivre ensemble. Ouais,
donc, ça, franchement, c'est pas des efforts énormes. Vous en êtes capable, bourré, il n'y a pas de souci, quoi.
Là, si je peux ajouter, il y a un effet, évidemment, sociologique qui dépasse complètement le foot, mais il y a quand même cet effet, de meute, quoi, de groupe, qui
on
est
envie d'impressionner.
C'est masculin, c'est,
ouais,
c'est une question masculine. Il y a 95% d'hommes, je dirais.
Mais comme quand on va en soirée, nous, c'est, la,
tout
c'est
à fait.
Le même esprit, quoi.
Ouais. Mais pourquoi, à un moment donné, effectivement, on se donne le droit de voler des fruits à l'épicier de la rue de la gare,
Il y a un épicier qui dit ça, qui témoigne dans ton reportage.
Exactement. Ouais. À quel moment, parce qu'on est 1000, on est 700, ouais. 800, 1000, on va aller piquer les pommes, les aubergines de l'épicier de la rue de la gare, non? À quel moment on a le droit d'arracher le téléphone portable des gens qui, évidemment, premier réflexe dans notre société aujourd'hui, c'est on filme un truc qui se passe. Effectivement, les cortèges de supporters, c'est très impressionnant. Mais à quel moment on a le droit d'arracher le téléphone des gens, de l'exploser par terre? Non, quoi. Ouais. Puis à quel moment on me demande de dégager parce que je fais mon travail?
Ouais, il y a des limites, mais après, voilà, des deux côtés, il y a des choses qui vont pas. Je voulais juste finir avec toi, Isabelle, sur cette question. Qu'est-ce que t'as appris avec ce reportage et puis à quels écueils t'as été confrontée?
Alors, ce que j'en conclue de ce reportage, c'est que c'est un sujet. J'avais rarement vu un sujet aussi complexe. Où mettre la barre, c'est vraiment la question. Ouais. Comment gérer toute cette affaire avec respect et diplomatie et en même temps fermeté, parce qu'il y a des débordements et des abus. Et c'est vrai que ça m'impressionne beaucoup le travail de la police, en fait, parce qu'ils doivent être là, mais ils doivent pas trop être là. Ils doivent être là sans être visibles. S'ils sont juste là, ça provoque déjà. C'est difficile à gérer ce genre de situation. Donc je trouve que c'est un excellent sujet. Et je sais pas comment on va le résoudre.
C'est
comment,
ça.
Peut-être que tu partages mon avis. C'est vraiment.
C'est dur d'imaginer une solution.
Où mettre la barre. Chacun doit y mettre du sien. Et puis le dialogue, évidemment, c'est la base, je pense, quand même, malgré tout. On m'a dit qu'à Zurich, donc, il y a aucun dialogue entre le COP du FC Zurich et la police zurichoise. Et ça, je pense que c'est un peu un point de mon retour.
Ouais, ouais.
Donc voilà. Et puis, donc ça, ce que j'ai appris, c'est ce que je retiens, c'est cet équilibre. Très très difficile. Et puis c'était quoi ton autre question? Les écueils, oui, alors peut-être rapidement, moi je voulais absolument obtenir l'interview de un ou d'une ultra, c'était mon objectif, j'étais pas naïve, je pensais bien que ce serait impossible, mais j'avais quand même réussi à force de patience, en me présentant, en allant parler dans la vraie vie avec les gens sans micro, j'avais obtenu une interview d'un ultra dans un groupe de supporters romands. Et puis j'avais même convaincu un peu le comité, on va dire, le capot était d'accord, donc j'étais très contente, anonyme bien sûr. Et puis en fait il y a eu une sorte de mini émeute à l'interne du groupe de supporters, donc le groupe au sens large, qui a fait que cette personne s'est rétractée. Et ça, c'est vrai que c'est mon grand regret, parce que je pense que là aujourd'hui c'est plus possible.
Ça pourrait pas tout communiquer. Changer s'ils s'expriment.
C'est plus possible et ils auraient tout à gagner, parce que là je leur ai expliqué, les gens, le 98% des gens, quand ils entendent parler des ultras, c'est parce qu'il y a eu des incidents
c'est en mal,
lors d'un match.
Faut donc dire tout ce qu'ils font bien aussi,
exactement,
quoi.
Et les gens qui ne viennent jamais au stade, ils ne savent pas tout le bien qu'ils font.
Et pour avoir fait des matchs où les ultras font grève, je peux vous dire que ça vaut plus la peine d'aller voir.
Ça vaut pas la peine d'aller au stade.
Et vraiment, je vous recommande, s'il y a des ultras qui écoutent l'émission par hasard, là, vous avez de quoi vous méfier des journalistes, parce que beaucoup de merde a été dit sur vous. Mais quand même, ça vaudrait la peine à ce stade de communiquer. Faut pas vous fermer entièrement, parce qu'il y a des gens bien intentionnés, comme Isabelle en fait partie. Et puis une fois que vous avez vraiment discuté avec la personne, que vous voyez qu'elle va pas vous la faire à l'envers, je pense que vous avez des choses intéressantes à dire et les gens comprendront mieux ce que vous faites et arrêteront de vous diaboliser, parce qu'on a besoin de vous, quoi. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Yacine?
Non, mais c'est vraiment une limite difficile à avoir entre l'acceptisation complète du sport et puis, comme on peut le voir en Angleterre, où il y a eu des lois contre les hooligans qui ont été très restrictives dans les années 80. Et qui ont mené à ce que maintenant on ait des billets à des prix exorbitants, qu'il n'y ait quasi plus de copes debout. Et en fait, je trouve que c'est un football triste et on n'a pas envie de ça. On a envie d'avoir des stades avec des énormes tifos, avec des ambiances de feu. Et même les fumées, j'avoue, moi ça me gêne pas. Je trouve ça quand même assez cool. Mais après, il y a un. C'est meet me halfway, on va dire, comme ils disent en anglais.
Un compromis.
Il y a un petit compromis de quand même casser des trains et puis casser des vitrines. C'est pas. Enfin, vous rendez bien compte, ça relève du code pénal et peut-être qu'il faut pas le faire.
Et de l'autre côté, la police laissait un petit peu les pyros et les fumis quand même.
Ouais.
Ça, c'est comme les trucs.
C'est un problème de loi, hein. C'est une loi. Il faudrait changer la loi.
C'est ça.
La police applique la loi.
Ouais, alors oui, d'accord. Mais je veux dire, les contrôles, enfin, tu vois, je sais qu'il y a certains sécuritas qui laissent un petit peu passer. Bah, peut-être qu'il faudrait un petit peu. Voilà. Enfin, de toute façon.
Diplomatie.
Voilà. Parce que de toute façon, c'est comme au 1er août. Il y a des blessés chaque 1er août avec ces fucking ces feux d'artifice, tu vois. On n'est pas censé les faire chez nous, on les fait quand même. Et des fois, ça déborde un petit peu.
On tue des chiens, c'est pas grave.
Est-ce qu'on peut conclure sur ça? Non, allez écouter vraiment ce reportage qui est assez instructif et assez édifiant de l'émission Vacarme sur la première. C'est Isabelle Fiot qui sont les chargées. Merci Isabelle d'être passée.
Merci, je précise juste qu'il y a encore les échos de Vacarme. C'est le dimanche matin à 9h.
Cool.
C'est une émission effectivement avec deux invités. Vincent Steinmann qui est le vice-président du Lausanne Sport et puis Bertrand Finker qui est un sociologue du sport spécialiste des phénomènes liés aux supporters.
Ah génial.
C'est donc demain dimanche à 9h.
Trop bien. Eh ben le rendez-vous est pris et sinon il y a le Play RTS pour réécouter ça si vous loupez ça demain matin. Isabelle, merci, bonne suite.
Merci
à la prochaine.
Couleur 3.
Voici Yard Act, The Undertow sur la 3.
Are we born for nothing if we die alone? Only God can answer. So where's my telephone? If someone clipped the wires, you didn't pay that bill. You know God loves a trier, and I've got time to kill. Who made that decision for you? Who made that decision for you? Told you what you swore to, like you already knew. If I leave here before you, you'll see our baby through. You know I always loved you. I know I'm not around, but I'm only working for you. Cause from the cradle to the grave, I'm a slave to sound. Any lows below our own, we'll never truly know. Pain lingers on by its own measure, irrespective. When one man's treasure is another's final blow. But hope yet may still come to those daring to dig that deep within themselves. We bear our souls on wax, pretend to prose, only to stop them if their purpose when our findings hit the shelf. Any lows below our own will never truly know. My head above the water, I was young and I was limber. I swear I saw you on the shore before I caught the undertow.
La guitarra.
And I made that decision for us.
Yard Act, The Undertow, vous êtes toujours dans la troisième mi-temps. Et alors, le saviez-vous, ça, que notre chroniqueur troisième mi-temps est tellement intelligent qu'il est recordman de lancer du poids. Mais attention, du poids psychologique.
Oui.
Puisque malgré le fait qu'il soit un homme hétéro cisgenre, eh bien, il suit une thérapie pour se débarrasser de ses traumas et n'hésite pas à parler de ses émotions et de ses douleurs à ses proches. Voilà.
Voici Yacine Nemra et son Le Saviez-vous sportif.
Le saviez-vous?
Il est au courant de tout.
Yacine Nemra.
Tout le monde parie sur vous.
Je le sais très bien. Le saviez-vous?
Le saviez-vous, Martina Hingis est dyslexique, mais ses parents n'ont jamais eu le courage de lui avouer. En fait, elle s'appelle Martina Higgins. Le saviez-vous, beaucoup de gens se demandent pourquoi l'équipe de basket de Denver s'appelle les Nuggets. Ben c'est simple, à ses débuts, la NBA était financée par des géants de l'agroalimentaire et tous les clubs devaient porter le nom d'un aliment. Il y avait notamment les Los Angeles Donuts, les Miami Pizzas, les New Orleans Cocovins, les Ted Jeans de Salt Lake City, les Chicago Bobunhu, les Toronto Maffé Sauce Jaune ou encore les Detroit Touches. Une belle époque qui dura jusqu'en 1923, année qui verra le lobby des monuments genevois à rayonnement international racheter la NBA, donnant lieu à de nombreux affrontements immenses entre les jets d'eau de Genève de Cleveland et les jets d'eau de Genève de Seattle, ou encore les jets d'eau de Genève de New York et... Bref, vous avez compris. Le saviez-vous, 50% des chiens n'ont pas vu la finale de la Coupe du Monde 2022.
Comment?
Alors que les autres 50% n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Le saviez-vous? Non, Lance Armstrong n'est pas une lance.
Ah.
Et après avoir passé un test de QI, son psy a déclaré qu'il n'était pas une flèche non plus. Quel immense débile se doper. Le saviez-vous? Il fallait que ça arrive. Un gardien qui confondait les B et les P s'est fait larguer par sa copine parce qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il adorait aller aux putes.
Au but.
Le saviez-vous? Le Swaskin est un mensonge. En effet, son créateur James Jump avait déclaré avoir inventé ce sport à des passants ahuris qu'il avait vu sauter d'une colline à ski, alors qu'en fait, il voulait se suicider.
Oh non.
Si vous allez mal, n'hésitez pas à parler à vos proches, appelez le 147. Salut les amis, à la semaine prochaine.
Couleur 3.
Ah, cet homme est fou. James Jump, le créateur du saut à ski. Putain.
Yacine Nemra pour vous servir. Voici Take What's Given, c'est Bad Bad Not Good. Sur la 3.
On dirait que c'est Yacine qui chante. C'est la troisième mi-temps, bébé.
Take what you're giving. Love was left. Oh, it's all in. Oh, yeah. Don't give what you're giving. Unless it's blessed. Don't get golden. Less and less.
Not good, take what's given sur Couleur 3. Il va bientôt falloir rendre l'antenne, mon ami, parce qu'on a parlé des ultras.
qui est un sujet intéressant, mais on va pas pouvoir parler de tout ce qu'on avait prévu. On vous les garde pour la semaine prochaine, nos petites histoires très intéressantes de chicken wings au basket et d'un type qui fait le marathon de Londres en courant. À chaque kilomètre, il s'arrête, il boit un verre de vin.
Oh, c'est voilà. Bon, ça.
Ça, c'est du très
comme
très
le gars
bon.
Qui fumait des clopes au marathon de Tokyo.
oui, on avait parlé génial. De ça, c'était énorme. Qui était hyper vieux en plus.
Oui.
Le gars, il nous dose physiquement alors qu'il fume et qu'il a 50 ans, c'était exceptionnel. Je voulais quand même donner une petite actu, alors ça m'avait échappé, hein. C'était début mars déjà, mais j'ai trouvé ça assez exceptionnel, j'avais lu ça dans le Blic. Dans une course cycliste en Espagne, c'était dans la province d'Alicante, il y a 130 coureurs qui ont soudainement abandonné. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont reçu l'info pendant la course comme quoi il y aurait un contrôle antidopage à l'arrivée. 130 ! Ils ont dit « Ah non,
la moitié !» amateur.
Une course amateur, pour répondre à ta question, Yacine. Voilà.
Ah.
C'était à Villena, pour être précis, le 2 mars. Voilà, 130 abandonnés. Ben nous, on va faire la même chose parce que je viens d'apprendre qu'il va y avoir un contrôle antidopage à la fin de l'émission, Yacine.
Oh non, j'ai trop de fun en moi.
Voilà, donc on va devoir couper, malheureusement. On va devoir quitter nos auditeurs et les retrouver seulement la semaine prochaine. Désolé, on veut pas prendre de risques. On veut pas être contrôlé positif et être suspendu pour le reste de l'année dans l'émission 3ème mi-temps. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Valère qui était en régie. T'es un boss. Merci à notre ami Gabriel Kschwen qui était à la programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, avec... Oui ?
Avec du sport sur couleur, toi.
Oui, mais... Ah tiens, c'est l'accent.
C'est mon nouveau perso.
Qu'est-ce qui s'est produit ?
Je m'appelle Racisto.
Oh là là, bref. La semaine prochaine, un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Je garde le suspense pour l'instant, mais il est possible qu'il y ait une balle. Voilà, il est possible qu'on parle de balle, je vous dis pas quel sport. Voilà, je garde un petit peu de suspense. En tout cas, c'était très fun d'être avec vous comme tous les samedis. On se retrouve samedi prochain à 15h. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous les loulous. Ciao.
Couleur 3.
Un petit Nas pour finir en beauté. Nostradamus. Let's go. 2000 G. Yo.
I need an encore, y'all. You should welcome me back. You want a ball till you fall, I can help you with that. You want beef, I can let a slug melt in your hat. Cause I'm a wild barbarian, too hard, I'm scaring them. Century 21 solar eclipse. While you listen to the words that I wrote on the disc, felonious, my description is do-rag. Pants sag down to my feet, AK is my heat. A day in the street, till I lay 6 feet. QB, PJs, and we playing for keeps. Jewelry, cars, and Jeeps is my motto. 4-5s with the hollows, silencers on the nozzles, pop bottles for those who left here. The best years, we in the bulletproof best years. The aim for the head and chest years. What's your name? Make your name known for the next year. Better rep, yeah. Nasty, Nas the Escobar. Now he is Nostradamus. 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 I let y'all niggas bang my shit before Saddam hits. Let Nostradamus tell us what time it is. I was the first one on that Don shit. First nigga to sing a hook on some TJ Swan shit. Black ski mask up in the projects. Camouflage full clips. Run up in your crib, top your bitch. Wear the bricks and we loco. So broke, brown coke won't sell. Spending your money on weed, smoking hotels. Hood rats and bullet wound up females. Got babies for hustlers and niggas in jail. Slinging for chips to fiends with burnt fingertips. Space heads kill cab drivers just for a hit. A week later, sporting gators getting thrills. Honey's wearing Gucci high heels. She come to scoop me, I chill. Leave the streets alone for a sec. Hit the sky bar on sunset. Then the sex is so high tech. Nasty, Nas the Escobar. Now he is Nostradamus. 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 Now lounge home, boy, you in the godly zone. Rest in peace, ill will. Now your name's in the throne. And we gon' rep it the best that we can. Physically, you was killed by the weapons of men. But where you at now, you lamp laid in max now. While brave hearts put they rap down in honor of your name, you a legend. And they don't understand how you CEO from heaven. But that's another level, brethren. 2 G's, we got the tight fan with Mac 11s. We do squeeze, though it's not right, but that's the zone that we left in.
Bentleys, Porsches, Piaget watches, stick with the bread, Lamborghini trucks topless, laptops with 100 gigabytes, ninja bikes, and we all roll dice for each other's ice. Now how did one guy multiply to more than five wise guys, but all in one man, only the mind's eye can understand that I'm nasty, Nas the Escobar.
Couleur 3.